être et vivre entre l'univers et l'homme. Troisième cours, la cause matérielle. Premièrement, expérience externe et expérience interne. Avant d'entrer dans ce troisième chapitre sur une question concernant la cause matérielle, faisant suite au second sur le mouvement naturel et au premier sur l'expérience de la matière, puis de la nature, il importe de préciser ce que signifie l'expérience dans la philosophie grecque. Cette expérience qui distingue la philosophie réaliste et la philosophie idéaliste. Il s'agit de l'expérience interne que nous découvrons chez Platon et de l'expérience externe chez Aristote. La première regarde en premier lieu l'immanence, l'intériorité de la pensée, donc le vécu de l'intelligence. L'expérience interne prend sa source dans les idées et se développe selon une logique subjective, donc affective, donnant naissance ensuite aux idéologies. La logique provenant d'une idée entraîne de fait l'idéologie. Tel est le fondement de l'idéalisme. Par contre, l'expérience externe prend sa source dans la réalité elle-même. Au-delà de toute intervention de la pensée qui reçoit la réalité, donc qui est relative à son objet, la réalité existante au-delà de toute perception ou représentation qu'on s'en fait. L'expérience externe est reçue dans l'intelligence elle-même. Non dans un vécu, mais par un jugement instantané, immédiat, le jugement d'existence « ceci est, ceci existe ». Tel est le fondement du réalisme. Tout homme peut ou doit faire le choix entre ces deux démarches fondamentales inhérentes à la vie de l'intelligence. Donc pour la vie elle-même, et son rapport avec l'être. Je vis, mais avant tout, j'existe. Si je n'existais pas, je ne vivrais pas. Chacun peut se dire cela et en prendre conscience. Mais je peux exister sans vivre. Du moins, mon cadavre existe un temps après la mort. Dans ces deux démarches, l'une est fondée sur la pensée qui mesure le réel, l'autre sur le réel qui mesure la pensée. Le réalisme implique de recevoir la réalité, puis de la découvrir pour la connaître en la respectant pour elle-même. À l'inverse, partant de la pensée, l'idéalisme risque d'entraîner l'ego, le moi-je, dans le prolongement du cogito ergo sum, le « je pense donc je suis » de Descartes, jusqu'à penser avec Sartre que l'autre c'est l'enfer. Aussi le réalisme réclame cette humilité fondamentale de l'intelligence pour découvrir ce qui est, donc chercher la vérité. Cette distinction fondamentale entre l'expérience externe et l'expérience interne permet d'entrer dans une grande pensée, mais une pensée, celle de Platon, qui, dans son dialogue du Timée, donne sa grande perception de l'univers. Deuxièmement, l'univers dans la philosophie de Platon. Le Timée met en évidence la dualité entre ce qui appartient au monde immortel et au monde mortel ou sensible, entre l'âme et le corps, donc entre l'origine de la pensée et le monde physique, est, selon les termes de Platon, entre ce qui existe de tout temps sans avoir pris naissance, compris par la pensée et produit une connaissance raisonnable, et ce qui naît et renaît sans cesse sans exister jamais. Qui naît et périt sans exister jamais réellement. Tombe sous la prise des sens et non de l'intelligence et ne produit qu'une opinion, dit-il dans le Timée. Ce que nous devons retenir en premier lieu dans cette perspective platonicienne, c'est que la réalité physique n'a pas d'existence réelle. En tant que tout ce qui appartient à l'ordre sensible n'a pas d'existence propre, mais une simple apparence. Platon en cherche la cause. Tout ce qui est sensible, tombant sous les sens et l'opinion, naît et périt. Et tout ce qui naît doit nécessairement venir de quelque cause. Car rien de ce qui est né ne peut être né sans cause. Pour Platon, la cause de l'univers provient d'un modèle éternel, d'où une seconde dualité dans l'ordre du modèle. Celui qui a fait le monde l'a fait évidemment d'après un modèle éternel, sinon il s'est servi du modèle périssable. D'où le monde est une copie, nous dit Platon. Une copie de ce qui est immuable ne doit être que vraisemblable, nous dit Platon. Par conséquent, ce que l'existence est à la génération, donc périssable, la vérité est à l'opinion, donc à l'ordre du non-être. La vérité, qui est la relation à l'être, devient du non-être, donc inexistante. Telle est l'apparence. La réalité sensible, en mouvement constant, donc sans existence réelle. Pour Platon, l'intelligence prend deux formes, l'une sensible dans l'opinion, l'autre immortelle dans la vérité qui a sa source dans les idées, les formes idéales. L'être, ce qui est en tant qu'intelligible, est relatif à l'idée. Tandis que le monde sensible n'existe pas comme réalité, mais en tant qu'apparence, donc en tant que non-être inhérent au mouvement incessant de l'univers. Du non-être à l'être, de l'opinion à la vérité, la création de l'univers est la mise en ordre de ce qui est un désordre. Ce désordre étant la masse des choses visibles qui s'agitaient d'un mouvement sans frein et sans règle, précise Platon. Cet ordre est voulu par Dieu, qui mit l'intelligence dans l'âme, l'âme dans le corps. Le corps de l'univers de feu et de terre, l'eau et l'air entre le feu et la terre, car, nous dit Platon, il est impossible à deux choses de bien se joindre l'une à l'autre sans une troisième. Cet ajout de Platon de ces quatre éléments, réunis de manière à former une proportion, qui est sortie l'harmonie de l'univers. Telle est la création de l'univers pour Platon qui explique ensuite le mouvement enveloppant et spécifiant la nature des réalités apparentes de l'univers physique. Je le cite. La nature des corps composés est telle que le froid, la chaleur et tous les agents extérieurs, en s'y appliquant à contre-temps, les dissolvent, amènent la décrépitude et les maladies, et les font périr. Dieu, le Créateur, donna au monde un mouvement propre à la forme de son corps et qui, entre les sept mouvements, appartient principalement à l'esprit et à l'intelligence. D'où Platon fait cette distinction entre le visible et l'invisible, entre le non-être et l'être. Je le cite. Le corps du monde est visible. L'âme est invisible. Elle participe de la raison et de l'harmonie des êtres intelligibles et éternels. Et elle est la plus parfaite des choses qu'est formé l'être parfait. Fin de citation. En tant que modèle, le monde est une image mobile de l'éternité, dit Platon. Ainsi, entre le monde réel et le monde éternel, qu'est-ce que le temps ? De l'éternité qui repose dans l'unité, le temps est cette image éternelle, mais divisible. Ce modèle qu'est le monde est existant pendant toute l'éternité, a été et sera pendant toute la durée du temps, nous livre Platon, pour qui l'âme immortelle repose auprès des dieux, dont la part sensible habite le corps de l'homme. Quel réalisme donne-t-il aux sensations? Le corps fut offensé par un feu extérieur à lui, par la dureté de la terre, par les exhalaisons humides de l'eau ou par la violence des vents portés par l'air. Mouvement qui tous passent du corps jusqu'à l'âme et qui ont été depuis et sont encore aujourd'hui appelés, en général, sensations. S'agissant de la cause, Platon distingue cause principale et cause secondaire. Cause principale dans le monde des idées, le monde invisible, cause secondaire dans les sensations, le monde visible et périssable. Tout cela, dit-il, est du nombre des causes secondaires dont Dieu se sert pour représenter l'idée du bien aussi parfaitement qu'il est possible. La plupart des hommes les regardent non comme des causes secondaires, mais comme les principales causes de toute chose, parce qu'elles refroidissent, échauffent, condensent, liquéfient et produisent d'autres effets semblables. Mais il ne peut y avoir en elles ni raison ni intelligence. Celui qui aime l'intelligence et la science doit rechercher comme les vraies causes premières les causes intelligentes et mettre au rang des causes secondaires toutes celles qui sont mues et qui meuvent nécessairement. De ces deux genres de causes, Platon dit qu'il faut traiter séparément de celles qui produisent avec intelligence ce qui est beau et bien, et de celles qui, dépourvues de raison, agissent au hasard et sans ordre. Quelle est l'origine de cet ordre existant entre les corps constituant l'univers physique? Cet ordre en tant que cause du mouvement? Platon nous l'indique. La nature du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ce que c'est que le feu et chacun de ces autres corps, nous disons que ce sont des principes et nous les considérons comme les éléments de l'univers. Puis il s'en arrête là, ne dépassant pas la cause formelle. Je le cite. Je n'entreprendrai point de vous exposer la cause ou les causes et les raisons, quelle qu'elle soit, de tout ce qui existe. Et je m'en abstiens pour ce seul motif qu'il serait trop difficile d'expliquer sur cela son sentiment. Ensuite, dans le Timée, Platon qualifie les corps les uns par rapport aux autres, constatant qu'ils n'ont pas de nature propre, puisqu'ils interfèrent constamment les uns avec les autres. Il met en évidence l'inexistence de la matière du fait de son incompatibilité avec la forme. La matière ne pouvant être déterminée par une forme, car la seule forme existante est dans les idées, et à sa source, dans l'intelligence du Créateur. Il n'est pas facile de dire, par exemple, développe Platon, quel est celui de ces corps qu'on doit appeler eau plutôt que feu ? Et en général, pourquoi une certaine dénomination convient à l'un d'entre eux plutôt qu'à tous les autres ou à chacun des autres ? Nous voyons que celui que nous avons appelé eau, en se congelant, devient, à ce qu'il semble, des pierres et de la terre. La terre dissoute et décomposée s'évapore en air. L'air enflammé devient du feu. Le feu comprimé et éteint redevient de l'air. À son tour, l'air condensé et épaissi se transforme en nuages et en brouillard. Les nuages, en se condensant encore plus, s'écoulent en eau. L'eau se change de nouveau en terre et en pierre. Tout cela forme un cercle dont toutes les parties ont l'air de s'engendrer les unes les autres. Ainsi, ces choses ne paraissent jamais conserver une nature propre qui oserait affirmer que l'une d'elles est telle chose et non pas telle autre, nous dit Platon. Fin de citation. Platon constate que les choses naturelles n'existent pas en tant que telles, qu'elles n'ont pas de nature, pas d'existence ou de réalité propre. Il en définit l'aspect. Il ne faut pas parler de ces sortes de choses comme d'individus distincts, mais il faut les appeler toutes et chacune d'elles des apparences soumises à de perpétuels changements. D'où leur appartenance à une réalité au-delà de toute apparence, rappelant le mythe de la caverne. Je cite Platon. L'être qui contient tous les corps en lui-même est comme ce lingot d'or. Il faut toujours le désigner par le même nom, car il ne change jamais de nature. Il reçoit perpétuellement toute chose dans son sein, sans revêtir jamais une forme particulière semblable à quelqu'une de celles qu'il renferme. Fin de citation. Pour Platon, la forme naturelle n'existe pas dans une matière, mais elle est forme surnaturelle, pourrait-on dire, cette forme qu'il désigne ainsi. Ce réceptacle de tout ce qui est visible et perceptible par les sens, nous ne l'appellerons ni terre, ni air, ni feu, ni eau, ni rien de ce que ces corps ont formé, ni aucun des éléments dont ils sont sortis. Mais nous ne nous tromperons pas en disant que c'est un certain être invisible, informe, contenant toute chose en son sein et recevant d'une manière très obscure pour nous la participation de l'être intelligible, un être en un mot très difficile à comprendre. Toute chose a-t-elle son existence en soi, comme nous avons coutume de le dire? Ou bien ce que nous voyons et ce que nous sentons par nos organes a-t-il seul de la réalité? N'y a-t-il absolument rien au-delà? Est-ce en vain que nous admettons pour chaque chose une idée, et des idées ne sont-elles que des mots? Fin de citation. Ces réalités, ces choses ainsi nommées, que nous saisissons à l'aide de nos sens, ne sont en réalité pour Platon que des idées, donc des mots, une apparence sans existence, donc du non-être. L'idée est d'essence divine. Puis, par participation, elle infuse l'âme humaine dans sa part immortelle au-delà de tout contact avec les réalités sensibles. Platon la désigne ainsi. L'opinion vraie appartient à tous les hommes. L'intelligence aux dieux seulement. Et parmi les hommes, à un petit nombre. Cela étant, il faut reconnaître qu'il existe une idée toujours la même, qui n'a pas commencé et qui ne finira pas, ne recevant en elle rien d'étranger et ne sortant pas d'elle-même, invisible et insaisissable à tous les sens, et que la pensée seule peut contempler. Et une autre chose, portant le même nom que la première et semblable à elle, mais sensible, engendrée, toujours en mouvement, naissant en un certain lieu pour en disparaître ensuite, objet de l'opinion jointe à la sensibilité. La troisième espèce est le lieu éternel, ne périssant jamais et servant de théâtre à tout ce qui commence d'être, ne tombant pas sous les sens, mais perceptible pourtant par une sorte d'intelligence bâtarde. Fin de citation. Platon termine sa longue démonstration en désignant le mouvement de l'univers, au-delà de toutes les réalités qui, par nature, sont sans existence réelle. Voici donc, en peu de mots, quelle est ma pensée. Il existe, et il existait, avant la formation de l'univers, trois choses distinctes. L'être, le lieu, la génération. Voici ce qui paraît le plus vraisemblable. La masse entière de chaque corps est portée par le mouvement de l'être qui les contient tous dans son sein, dans le lieu qui lui est propre. Fin de citation. Troisièmement, la cause matérielle dans la philosophie d'Aristote. Aristote rectifie sans cesse l'intelligence face à l'imagination. En effet, ce que je pense est toujours conséquent à un jugement d'existence, donc à ceci est. Pour penser, l'homme doit d'abord exister. S'il n'existe pas, il ne peut pas penser, puisque la pensée exige la présence d'une existence, d'une réalité existante, donc d'être pour vivre et penser. Notre connaissance, toute connaissance, part d'une expérience externe du monde qui nous entoure. Cet univers fait d'être animé et inanimé que l'intelligence de l'homme reçoit par l'intermédiaire de ses sens, les cinq sens. La réalité s'impose comme telle à notre intelligence. C'est la réalité matérielle que nous saisissons en premier mot. Tel arbre ou telle montagne, tel animal ou tel homme, telle maison ou telle statue. Dans la physique, pour expliquer ce qui est premier dans la réalité naturelle, Aristote revient à la distinction entre la matière et la forme, en particulier dans l'art. Prenant l'exemple de la statue, il précise cet ordre entre matière et forme. Nous disons que la statue vient à l'être à partir du bronze, et non le bronze devient statue. Sans matière, il n'y a pas de forme. Sans bronze, sans bois, pour une statue de bois, il n'y a pas de statue. Donc, la réalité n'existe pas. C'est une matière, bronze ou bois par exemple, qui par une forme, une détermination formelle, est devenue une statue. En prenant conscience que la matière est devenue une réalité existante, nous constatons que le devenir implique un mouvement, le mouvement d'un état à un autre état. Dans le mouvement, dans le devenir, la matière est contenue dans la forme, mais elle est connue avant la forme, puisque sans matière, il n'y a pas de forme. Sans matière, la forme n'existe pas. L'intelligence saisit en premier lieu la matière, et comme nous l'avons découvert au premier chapitre, dans l'expérience de la nature, l'intelligence saisit en premier lieu la nature-matière, source du devenir, source du mouvement. Car de même que la matière précède la forme, la matière précède le mouvement. Sans matière, le mouvement n'existe pas, le devenir n'existe pas. Le corps de l'enfant ne peut pas grandir s'il n'est pas incarné, en chair et en os. S'il n'est pas matière et forme, donc matière, chair et os, en premier qui reçoit sa forme, le corps. La nature-forme succède à la nature-matière comme détermination dans l'ordre de l'univers. Dans l'ordre de la nature-matière. La matière est en vue de la forme, et plus radicalement, la nature-matière est en vue de la nature-forme. Nous découvrons ainsi que la matière, par elle-même, dans sa potentialité, a cette capacité de changement, de transformation, de devenir, dans la forme, certes, et dans le couple matière-forme, mais potentiellement et préalablement en elle-même en tant que matière capable d'être transformée. C'est la potentialité de la matière dont nous prenons conscience. Aristote dit dans sa physique, quant à la nature sujet, elle est connaissable par analogie. En effet, de la même façon que se situe le bronze par rapport à la statue, le bois par rapport au lit, où la matière est l'informe, avant d'avoir reçu sa forme, par rapport à l'une des autres choses qui possèdent une forme, ainsi se situe cette nature par rapport à la substance, au ceci ou à l'être. Elle est donc un principe, sans être une ni un être de la même façon que l'est le ceci. » Fin de citation. Aristote découvre que la matière est première par rapport au ceci ou à l'être. Nous savons bien que tout ce qui est reçu par les sens n'est pas un ange, mais une réalité existante, un ceci est. Cette recherche de la cause met en évidence la connaissance fondamentale du devenir par la matière. C'est la matière qui implique une détermination par la forme. Par conséquent, la causalité matérielle précède la causalité formelle. La matière est un principe, principe dans l'ordre du devenir, dans l'ordre du mouvement naturel. Le philosophe constate ensuite que la matière indéterminée, recevant une détermination par la forme, ne peut recevoir toute détermination, toute forme, quelle qu'elle soit. En effet, tel bois peut recevoir telle forme. Le merisier, le noyer ou le pain pour tel meuble, par exemple. De même, pour ceux qui connaissent la ville de Saint-Claude dans le Jura, capitale française de la pipe, les bois désignés peuvent difficilement recevoir ce type de forme. Une pipe est en général fabriquée dans la bruyère, dont la matière est plus souple, dont une potentialité et une qualité spéciale. La matière possède en elle-même et par elle-même une disposition qui est antérieure à la forme. Telle matière a telle disposition, attribuant le caractère propre de la nature, d'une réalité particulière. Nous pouvons ainsi affirmer que la cause matérielle est une causalité de réceptivité d'une forme. La matière reçoit une forme. C'est sa détermination existentielle. Elle n'est donc pas du non-être, contrairement à la philosophie idéaliste. Par la forme, la matière est déterminée, qualifiée selon sa disposition propre. Cette disposition, en tant que nature-matière, impliquant une potentialité en plus ou en moins. L'aspect qualitatif pouvant être du plus ou du moins, car il est le résultat du mouvement d'un état vers un autre état, d'un état premier en un état second, d'un état second en un état troisième, et ainsi de suite. Le philosophe désigne la cause matérielle comme source du mouvement, principe du devenir, ce qu'Aristote indique dans la physique. Il est manifeste que tout vient à l'être à partir du sujet et de la forme. L'homme cultivé est en effet composé, d'une certaine manière, d'homme et de cultivé. Car on décomposera les énoncés en énoncés des composants. Il est donc clair que les choses qui viennent à l'être le font à partir de ces principes. Fin de citation. Dans la métaphysique, Aristote aborde cette question fondamentale au livre 8. Dans son étude sur la science de l'être, objet de la métaphysique, de la philosophie de l'être, il redonne à la matière sa dimension en faisant appel à la distinction entre la puissance et l'acte. la matière, étant en capacité de recevoir une forme pour exister, elle est dans un être en puissance. Ce qu'Aristote montre en se référant aux divers mouvements naturels. Je cite Aristote. Arrivons maintenant aux substances généralement reconnues. Ce sont les substances sensibles et les substances sensibles ont toutes de la matière. Le substrat est une substance. En un sens, c'est la matière. Et j'appelle matière ce qui, n'étant pas un être déterminé en acte, est en puissance seulement un être déterminé. Mais il est évident que la matière est aussi une substance, car dans tous les changements d'opposé à opposé, il existe quelque chose comme sujet des changements. Par exemple, dans les changements selon le lieu, il y a ce qui maintenant est ici et tantôt sera ailleurs. Dans les changements par accroissement, il y a ce qui maintenant a telle grandeur et puis sera plus petit ou plus grand. Dans les changements par altération, il y a ce qui est maintenant sain et puis malade. De même, dans les changements selon la substance, il y a ce qui maintenant est engendré, puis se corrompt, ce qui est au moment de la destruction, sujet déterminé par la forme, et au moment de la génération, sujet par privation de la forme. Dans le changement selon la substance, les autres changements sont impliqués. Par contre, le changement selon la substance n'est pas impliqué dans les autres changements, soit dans un, soit dans deux, car il n'est pas nécessaire, si une chose a une matière purement locale, qu'elle est aussi une matière comme siège de la génération et de la corruption. Fin de citation. Rappelons ce que signifie ce terme de substance. Utilisé en philosophie première. Par induction, l'intelligence découvre la substance au niveau de l'être. Il s'agit de la découverte successive d'un premier selon un ordre donné, donc d'un principe selon la forme, au niveau de l'art, au niveau éthique, puis au niveau de ce qui est mu, de la nature, et enfin au niveau de ce qui se meut, du vivant. Le philosophe induit cette diversité de premiers pour découvrir l'unité, donc un premier dans l'ordre de l'être, le principe selon la forme de ce qui est au niveau de l'être qu'il désigne par la substance. Dans l'ordre de l'être, la substance est ce qui se tient par soi, tandis que l'accident, une qualité ou une quantité, par exemple, est ce qui se tient par un autre, donc par la substance qui se tient par elle-même. Reprenant l'exemple d'Aristote, l'homme cultivé est en effet composé d'une certaine manière d'homme et de cultivé. Homme est substance seconde, tandis que cultivé est une qualité, donc un accident. Car cultiver en soi ne signifie rien. C'est un homme qui est cultivé. Cette réalité substantielle, existante, qui est tel homme. Le mot substrat, employé par Aristote, signifie le fondement radical d'une réalité. En quelque sorte, son existé matériel. Si nous interrogeons un dictionnaire, voici ce qui est écrit dans le Robert. Le substrat est ce qui sert de support à une autre existence, ce sans quoi une réalité ne saurait subsister, ce sur quoi s'exerce une action. Dans son travail d'analyse, Aristote distingue ce qui est de l'ordre de l'être et ce qui est de l'ordre du devenir, donc impliquant le changement par la matière. Une matière comme siège de la génération et de la corruption, dit-il. Il ajoute, quant à la substance matérielle, il ne faut pas oublier que même si toute chose procède d'une même cause première matérielle, ou bien ont les mêmes éléments pour première cause, et si la même matière sert de principe à leur génération, chaque être cependant possède une matière prochaine propre. Il peut y avoir plusieurs matières d'une même chose, quand l'une de ces matières est matière pour l'autre. En effet, une chose vient d'une autre, de deux manières, ou bien ce sera par voie de progression, ou bien ce sera par régression de l'autre chose en ses éléments. Il est possible que d'une seule matière naissent des êtres différents, par suite d'une cause motrice différente. Par exemple, du bois peut procéder un coffre ou un lit. Fin de citation. Aristote précise que telle forme provient de telle matière et que la qualité reçoit du plus ou du moins selon qu'elle est de l'ordre de la génération ou de la corruption. Que dire de l'univers physique dans sa globalité? A-t-il une cause matérielle? Est-ce que ce sont les quatre éléments? La terre, l'air, l'eau et le feu? Dans la métaphysique, au livre 8, Aristote répond: ce n'est pas le feu ou la terre, mais c'est la matière propre de la chose. Fin de citation. Quatrièmement, la materia prima. J'appelle matière le sujet premier de chaque chose à partir duquel il vient à l'être et qui se trouve en elle, et ce, non par accident, dit Aristote dans la physique. Précisant dans la métaphysique que la cause matérielle est la matière propre de la chose. La materia prima, en latin, et la matière en tant que première au-delà de toute transformation. La matière étant indéterminée, la détermination est donnée à la matière par la forme. La forme artificielle, par l'intervention de l'artiste, de l'artisan, de l'homme transformant l'univers. Mais elle est donnée à la matière en premier lieu par la forme naturelle, provenant de l'immanence du mouvement naturel. L'artisan travaille le bois en vue de fabriquer une chaise. Mais le bois provient d'un arbre, qui lui-même provient d'une cause matérielle. Il s'agit d'une succession d'effets provenant d'une succession de causes impliquant un devenir. Dans la métaphysique, comme Aristote le dit précédemment, les substances sensibles ont toutes de la matière. Le substrat est une substance. En un sens, c'est la matière. Fin de citation. Et il précise au sujet de la matière: j'appelle matière ce qui, n'étant pas un être déterminé en acte, est en puissance seulement un être déterminé. Nous pouvons ainsi affirmer que dans l'ordre de la génération. Quand un être est engendré ou généré, il devient un composé de matière et de forme, dans lequel la matière n'est pas du non-être, mais un être en puissance d'une détermination fondamentale. Aristote aborde aussi cette question essentielle dans son traité de la génération et de la corruption. Le terme de materia prima, de matière première, au sens philosophique du mot, désigne la matière en tant que principe dans l'ordre du devenir. La materia prima est dans la génération ou la succession des causes matérielles un premier, donc un principe, qui ne peut être assujetti à la cause formelle puisqu'il est principe. Ainsi, la materia prima, en tant que pure matière, pure potentialité dans l'ordre du devenir, désigne ce principe, cette cause fondamentale antérieure et première à la cause formelle, puis à toutes les causes. La materia prima est source du devenir. Sans elle, rien ne peut exister dans l'ordre de l'univers physique. Le philosophe découvre cette source, qu'il pose comme principe, et dont il ne peut pas avoir l'expérience. Car un principe n'existe que dans l'intelligence, nécessitant une démarche de l'intelligence par la voie inductive pour saisir l'unité au-delà de la multiplicité. Dans la succession des causes matérielles, la materia prima désigne la potentialité la plus radicale existant dans la matière, comme existant dans l'ordre du devenir, donc du mouvement naturel. Le philosophe affirme que l'expérience de ce qui est mu est le point de départ de la découverte de ce principe dans l'ordre du devenir. Ce qui est mu implique le couple matière et forme, d'où une compréhension de l'univers physique par le mouvement séparé de ce qui est mu aboutit à considérer la matière comme du non-être, comme du néant. Le philosophe doit donc partir de l'expérience de la matière et de la nature impliquant deux mouvements, l'un artificiel consécutif à l'intervention de l'homme et l'autre naturel consécutif à l'immanence du mouvement lui-même par la cause matérielle, puis à sa source, par la materia prima en tant que cause première, principe dans l'ordre du devenir de toute réalité physique, en particulier le corps pour l'homme. Cette analyse de la cause matérielle, en référence à la physique et à la métaphysique d'Aristote, éclaire les dérives de la pensée moderne, en particulier la dialectique hegélienne, puis la dialectique matérialiste. La découverte de la cause matérielle permet de comprendre le mouvement naturel dans l'analyse de ce qui est mu, impliquant matière et forme. Cette découverte d'Aristote répond à la philosophie de Platon, pour qui une philosophie de la matière n'existe pas. Toutefois, il est intéressant de relever, entre Aristote et Marx, une convergence qui n'existe pas entre Aristote et Hegel. C'est l'existence d'une philosophie de la matière. Bien que leur finalité soit diamétralement opposée. La matière est principe d'être pour un marxiste, l'être étant relatif au devenir, tandis que la matière est principe du devenir pour un philosophe réaliste, le devenir étant relatif à l'être.